Donc le séminaire va être un peu différent de... Il ne va pas être exactement dans la continuité de ce que j'ai fait depuis le début de l'année. Impossible de ne pas tenir compte quand même d'événements qui nous secouent. Comme dit Monique dans son texte, qui nous abattent, à prendre au sens métaphorique et au sens réel. Mais ceci étant, ça, vous allez voir, ça rejoint quand même un certain nombre de mes préoccupations et des préoccupations analytiques qui sont les nôtres. Je vais essayer de limiter le plus possible ce que j'ai à vous dire, de façon à d'abord permettre à Moufid d'intervenir, car il le souhaitait, et à tous ceux d'entre vous qui souhaiteraient dire quelque chose à propos des événements qui leur paraîtraient importants ou qui nécessiteraient d'être entendus, que ce soit des choses qui se sont déjà discutées dans les médias ou entre amis, ou des choses inédites, ou des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire, par exemple, en public. Ça concerne aussi bien ce qui se passe en psychothérapie, que ce qui se passe à l'école, que ce qui se passe dans différents endroits de la société civile et publique. Alors, pour ne pas perdre de temps, ce qui m'a mis sur la piste d'une réflexion à ce sujet, c'est d'abord le fait que, et comme vous pouvez l'imaginer, j'étais assez vite sollicité par les médias, et quand je dis assez vite, c'est justement trop vite, et donc je les ai tous éconduits en leur disant que j'avais besoin de temps pour penser ce qui se passe, et que le temps médiatique n'est pas le même que le temps de l'élaboration, et que ce n'était pas possible de réagir comme ça à chaud. Donc, du coup, j'ai mis à profit un peu ça, et il se trouve qu'à Paris, mon séminaire de cette année, depuis le début de l'année, donc avant les événements, porte sur l'interdit de la représentation. Et donc, évidemment, non seulement c'est tombé, c'est les événements de la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, sont tombés, pile dans mon sujet de réflexion, à un point que j'aurais pas imaginé auparavant. Mais en plus, je me suis rendu compte que progressivement, je m'étais donné un certain nombre d'outils, justement, pour penser la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je vais vous en faire part très rapidement. Mais auparavant, je voudrais vous rappeler les dernières lignes de Malaise dans la civilisation, où Freud dit « Les jugements de valeur des hommes sont absolument orientés par leur désir de bonheur. Ils sont donc une tentative pour étayer leurs illusions par des arguments. » Étayer leurs illusions par des arguments. Je comprendrais fort bien que quelqu'un souligne le caractère obligatoire de la civilisation humaine et disent par exemple que la tendance à restreindre la vie sexuelle ou à imposer l'idéal humaniste aux dépens de la sélection naturelle représente des évolutions impossibles à écarter ou à détourner et que le mieux est de s'y plier comme si c'était des nécessités naturelles. Je connais aussi l'objection là contre, que telles tendances que l'on tenait pour inéluctables ont été souvent au cours de l'histoire de l'humanité balayées et remplacées par d'autres. Aussi, le courage m'abandonne-t-il pour me planter en prophète devant mes frères humains, et je m'incline devant le reproche qu'ils me font de ne pas savoir leur apporter de réconfort. Car c'est ce qu'ils réclament au fond tous, les révolutionnaires les plus farouches, tout aussi passionnément que les dévots les plus dociles. La question cruciale pour le genre humain me semble être de savoir si et dans quelle mesure l'évolution de sa civilisation parviendra à venir à bout des perturbations de la vie collective par l'agressivité des hommes et leur pulsion d'autodestruction. Je répète cette phrase. La question cruciale pour le genre humain me semble être de savoir si et dans quelle mesure l'évolution de sa civilisation parviendra à venir à bout des perturbations de la vie collective par l'agressivité des hommes et leur pulsion d'autodestruction. Sous ce rapport, peut-être que précisément, l'époque actuelle mérite un intérêt particulier. Les hommes sont arrivés maintenant à un tel degré de maîtrise des forces de la nature qu'avec l'aide de celles-ci, il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. Ils le savent, d'où une part de leur inquiétude actuelle, de leur malheur, de leur angoisse. Il faut dès lors espérer que l'autre des deux puissances célestes, l'Héros éternel, fera un effort pour l'emporter dans le combat contre son non moins immortel adversaire. Mais qui peut prédire le succès et l'issue ? Je trouve que c'est d'une actualité, enfin, ça donne d'abord une certaine hauteur de vue pour penser l'événement. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que ça correspond assez bien, disons, aux différentes séquences de ce qu'on a vécu. Hein ? Désunion par le meurtre, l'assassinat, le crime. Hein ? Puis, le 11 janvier, donc, Thanatos dans un premier temps, Héros dans un deuxième temps, la réunion. Hein, et puis, on voit à nouveau se décomposer cette union. Et donc, il y a cette lutte qu'il pointe comme ça, de façon conceptuelle, hein, cette lutte entre Héros et Thanatos. Et il dit, à fort juste titre, bien malin celui qui dira lequel des deux va l'emporter. Mais ce qui pointe aussi, c'est l'angoisse qui est la nôtre devant nos capacités d'autodestruction à un niveau qu'il ne connaissait pas encore, lui, parce que c'est quand même, il écrit ça quand même assez longtemps avant la Seconde Guerre mondiale, assez longtemps avant Hiroshima, et assez longtemps avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, où ce qu'il disait là ne fait qu'aggraver les choses. Donc voilà, dans un premier temps, j'étais parti de là. Ensuite, j'ai essayé de réfléchir aux séquences qu'on a vécues, et je me suis demandé quel lien il y avait entre la mort des caricaturistes et des journalistes de Charlie, la mort parmi eux d'une psychanalyste juive, Elsa Kayat, et la mort des juifs dans un supermarché cachère. Et je me suis dit que ce qui les réunissait, tous les trois, c'était la question de l'humour, la question du rire. Pour Charlie, ça va de soi. Pour la psychanalyste juive, je dirais que le statut de l'humour, du trait d'esprit, du mot d'esprit, c'est le statut même de l'inconscient, hein, qui est en jeu. Parce que un des djihadistes a dit à une femme « Je ne te tue pas parce que tu es une femme ». Mais par contre, quand il avait affaire à une psychanalyste, dont j'ignore s'il savait qu'elle était juive, mais en tout cas une psychanalyste, là, c'était plus à une femme qu'il avait affaire, mais bien à une psychanalyste. Et puis, les morts du...
Il savait
à peu près beaucoup de choses, à peu près, excusez-moi, il savait beaucoup de choses sur les gens qui étaient là. C'est assez confus de savoir ce qu'il savait précisément, qui était qui. Le fait est quand même que, alors qu'il venait de dire qu'il ne tuerait pas une femme parce que c'était une femme, elle, il l'a zigouillée. Donc il avait une raison tout à fait particulière de le faire. Et puis, il y a les morts du supermarché de Vincennes. Alors, je vais partir de ce que me dit un petit patient. Un petit patient de 9 ans, d'une famille, on dirait, comme ça, n'y voyait aucune ironie, c'est un fait, une famille de bobos, mère journaliste dans un grand magazine féminin, le père cinéaste, parents qui viennent de divorcer, plutôt donc idéologiquement correct, hein, qui avait sa séance au lendemain de la tuerie de Vincennes. Alors, c'est un petit garçon qui m'est confié parce que il est extrêmement agité. Et de fait, il ne tient pas en place. Pas une seconde, il est constamment d'un pied sur l'autre, en train de toucher à tout, ce qui a le don d'énerver ses parents. Et notamment le père, que j'ai vu une fois avec son fils, qui passe son temps à interdire à son fils de toucher à ci, de toucher à ça, de bouger, etc. Évidemment, en vain. Tout ça ne sert strictement à rien. Et donc la question est de savoir, alors, il a vu nombre de pédopsychiatres, nombre de pédiatres, nombre de ce que vous voulez, il prend de la Ritaline, rien n'y fait, de toute façon, il continue exactement de la même manière. Par ailleurs, il est extrêmement sympathique. Et il arrive et il me dit, moi je sais pourquoi il savait qu'il y avait des juifs au supermarché. Alors je suis même étonné qu'il se soit posé la question. Et il commence la séance d'emblée comme ça. Et je lui dis, et donc, pourquoi? Et il me dit, c'est parce que c'était un supermarché pas cher. Et je lui dis, et alors? Il dit, ben les Juifs, ils savaient que les Juifs, ils vont dans les supermarchés pas chers. Bon. Je lui dis, il y a quand même là dans l'éducation quelque chose à revoir. Mais je me suis dit, il a un inconscient quand même qui fonctionne bien. Quoi. Alors je vais revenir à lui tout à l'heure parce que vous allez voir que ce n'est pas seulement anecdotique cette affaire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une anecdote clinique. Pour aller un peu plus vite, donc je me suis posé la question, je vous dis, puisque c'était un de mes thèmes de travail de cette année, pourquoi n'a-t-on pas, dans tout ce que j'ai pu entendre et que vous avez pu entendre vous aussi, pourquoi a-t-on fait si peu de place à la question centrale dont il est clair que, manifestement, soit elle est utilisée, soit elle est la cause réelle de ce qui se passe, qui est la question de la représentation. Pas seulement la question du conflit entre l'Occident et un certain Orient, pas seulement la question des résidus de la colonisation, de la pauvreté, de tout ce que vous voulez, mais la question centrale, hein, d'où tout est parti, c'est-à-dire la question de la représentation de ce qui n'est pas représentable. En tout cas, pour la culture musulmane. Or, la question de l'interdit de la représentation, ça ne concerne pas que l'islam. Je vous rappelle que Freud met au cœur même des conditions de ce qu'il appelle le progrès de la vie de l'esprit, qu'il oppose au progrès de la religion, donc ce qu'il va mettre au cœur de l'affaire en le laïcisant, c'est-à-dire en l'extrayant de la doctrine juive, ce qu'il met au cœur, c'est l'interdit de la représentation. L'interdit de la représentation, pour lui, ça va bien au-delà que la simple lutte contre l'idolâtrie, ça va bien au-delà de la question de la vénération des images ou des icônes, c'est la condition même du passage au spéculatif, du primat du spéculatif sur l'affectif ou l'émotionnel. Alors certes, cet interdit est promulgué dans un contexte où l'image est dominante. C'est l'Égypte ancienne. Freud y voit un pays entièrement voué au culte de l'image, où même l'écriture se confond avec l'image. Hein, mais il le dit explicitement, hein, l'interdit de la représentation, en tant qu'elle interdit ce qu'il est impossible de représenter, c'est-à-dire la vie, ou ce qui est aussi impossible à représenter, c'est-à-dire la mort, hein, est la condition même à partir de laquelle s'élabore la pensée, et ça, je dirais, c'est complètement raccord, hein, avec bien des choses de la théorie freudienne, et notamment avec sa théorie de l'interprétation des rêves. Le rêve est un rébus, hein, ça veut dire que les images nous aveuglent ou nous rendent sourds au message que le rêve transporte. Hein, c'est un rébus en ce sens qu'il doit être transformé en écriture. Sinon, les images du rêve sont les produits de la censure. Donc, bloquent notre accès aux pensées du rêve. Et donc, quand il aboutit à cette idée que l'interdit de la représentation est fondamentalement la condition de la pensée, et je répète, en laïcisant cette affaire, hein, il touche à un point sensible de sa doctrine, du début à la fin de sa doctrine, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de trou, là où il n'y a pas d'espace vide, là où il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'élaboration doctrinale possible. Il n'y a pas de pensée. Alors ça concerne aussi bien le refoulement originaire, par exemple, hein, c'est-à-dire une pensée du trou, il faut qu'il y ait un trou quelque part. Hein, s'il n'y a pas un trou quelque part, ça ne marche pas. Ça concerne l'ombilique du rêve, hein, c'est-à-dire qu'il y a une limite à l'interprétable, donc une limite représentable, hein, et que tout ça est d'une... Il y a le narcissisme primaire aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours, dans tout ce qu'il va élaborer, hein, la part qu'on pourrait dire être celle de la castration, tout simplement. Hein, c'est-à-dire du fait que s'il n'y a pas, comme dans le jeu du pouce-pouce, hein, cette case vide à laquelle j'avais fait allusion en son temps Serge Leclerc, s'il n'y a pas cette case vide à partir de laquelle vous pouvez manipuler les signifiants pour les faire se substituer ou se succéder les uns aux autres, eh bien tout simplement vous ne pouvez pas penser. Or, l'image, de ce point de vue-là, elle intervient à ce niveau-là. Et alors, ne me dites pas, oui, mais alors, avec une doctrine comme ça, l'art, toute l'iconographie occidentale est vouée à la censure. Non, parce que justement, ce qui caractérise, c'était une des choses que j'avais développées dans mon livre sur les chefs-d'œuvre, ce qui caractérise une peinture en tant que chef-d'œuvre pictural d'une toile d'un peintre du dimanche, c'est que justement, dans tout chef-d'œuvre, il y a une place pour le trou. Il y a un point d'énigme. Tous les chefs-d'œuvre ont un point d'énigme qui est représenté par quelque chose, par un point de vide. Tous les chefs-d'œuvre. Et en fait, aucun chef-d'œuvre n'est autre chose qu'une méditation sur l'impossibilité de la représentation. C'est bien pour ça que progressivement, l'histoire de l'art s'est orientée vers l'art abstrait, où finalement, on aboutit à quoi avec la peinture contemporaine, la peinture moderne? On aboutit à ceci, que justement, on respecte l'interdit de la représentation. Ce qui est quand même assez fabuleux. Hein, et sinon, si vous regardez les études artistiques les plus précises, vous verrez que quand on découpe n'importe quel tableau de la Renaissance ou du Moyen-Âge et qu'on le regarde comme un jeu de formes et de couleurs, la représentation n'a plus aucune importance. Hein, c'est-à-dire que n'importe quel tableau de la Renaissance, une fois qu'il est découpé en différents carrés ou différents rectangles, apparaît comme une toile abstraite. Hein, comme des toiles abstraites qui se succèdent. Je ferme la parenthèse sur l'art, c'est juste pour répondre à l'avance à l'objection sur l'art. Donc la pensée du trou, les musulmans ou certaines sources musulmanes s'en sont fait les héritiers. Ils sont d'une certaine manière face à l'Occident, où vous m'accorderez que ce qui règne, c'est l'image. Ils sont d'une certaine manière, je ne parle pas des djihadistes là, hein, ils sont les musulmans, les soufistes par exemple, sont les porte-paroles, hein, sont ceux qui portent la question face à l'Occident de la possibilité du trou, de la non-représentation. Je me souviens qu'il y a quelques années, je suis allé visiter l'Alhambra de Grenade. On m'avait dit, quand tu auras visité l'Alhambra de Grenade, en sortant, va voir la Chartreuse. Tu verras, sans me dire ce que je verrai. Ceux d'entre vous qui sont allés à l'Alhambra savent justement la paix qui naît de l'absence de représentation dans ce lieu. Hein, où on a affaire aux odeurs, on a affaire au vent, on a affaire à l'écriture, à l'architecture, mais à la nature. Mais il y a comme un côté apaisant, surtout depuis qu'ils ont limité le nombre de visiteurs par heure, il y a un côté apaisant dans cet endroit qui est absolument sublime. Et donc, comme on m'avait conseillé d'aller voir après une chartreuse qui se trouve à 800 mètres de là, je suis allé. Et j'arrive là-dedans et je tombe en plein baroque espagnol avec des représentations de saints percés de flèches, de coups tranchés, de ça dégoulinait de sang partout. Il y avait des ossements dans des tubes en verre, des reliques, etc. Enfin, bref, une angoisse terrible. Bon, alors, évidemment, le contraste ne faisait qu'augmenter l'affaire, mais quand même. Le totalitarisme de l'image n'invitait pas à penser, éventuellement à être fasciné par la beauté de certaines représentations, mais pas à penser en tout cas, plutôt à subir. Donc je me suis dit, il faut continuer, et vous voyez que la question est quand même très complexe, je vais essayer d'aller assez vite pour vous laisser de la place après pour parler. La question est quand même très complexe. C'est quoi cette question de l'image? J'ouvre une parenthèse pour dire la caricature, c'est une image très particulière. Qui fait penser. Mais c'est pas une image au sens traditionnel du mot. Donc on pourra y revenir, si vous voulez, tout à l'heure dans la discussion, mais je voudrais avancer un peu. L'image, c'est quelque chose qui donne à voir. Et elle donne à voir quoi? Elle donne à voir, ou à faire croire, plus exactement, au spectateur, et plus encore au spectateur enfant, que l'inimaginable est possible. Regardez comment sont faites les images pour les enfants. Elles sont faites exactement pour ça, comme ça. Sont des images qui sont fabriquées pour leur faire croire, pour les faire adhérer à l'idée que l'inimaginable est possible. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que l'image donnée se confond avec le fantasme sadique ou masochiste, inconscient. Et alors, quelle importance ça a? Ça concerne, par exemple, tous les jeux vidéo, les plus sanglants, les plus sadiques, auxquels nos jeunes sont confrontés aujourd'hui, qui ont pour effet de donner une certaine légitimité au fantasme inconscient, qu'il soit sadique ou qu'il soit masochiste. Toutes les images les plus cruelles, celles qui sont utilisées par les jeunes aujourd'hui pour jouer à la guerre, pour dégommer, pour tuer, etc., rendent légitimes les fantasmes. Surtout quand il en est fait une publicité, exalter, suggestive. Alors, c'est très important cette question de la légitimation. Parce que, évidemment, ça concourt à ce que nombre d'observateurs ont déjà dit sur la confusion entre le réel et l'imaginaire. Mais de le dire comme ça, à mon avis, c'est moins parlant que de remarquer la légitimation du fantasme par la socialisation de la cruauté. Alors à cet égard, je suis allé voir l'exposition sur Sade à Paris. Et dans le dépliant qui donnait, vous savez que l'exposition s'appelle « Attaquer le soleil ». C'est à cause d'une citation de Sade des 120 journées de Sodome, dont il se trouve que, justement, je crois que vous en avez parlé une fois, il se trouve que c'était ma lecture de cet été, les 120 journées de Sodome. Et il dit, Sade, « Combien de fois, sacre Dieu, n'ai-je pas désiré qu'on pût attaquer le soleil, en priver l'univers, ou s'en servir pour embraser le monde ?» Vaste question. Mais ce que j'ai retenu surtout dans le dépliant, c'est la formule, c'est la phrase suivante, qui n'est pas de Sade, qui est du commentateur, mais je n'ai pas trouvé son nom. « À considérer cette diversité, dit-il, on mesurera combien Sade, du plus profond de sa révolte, écoutez bien parce que chaque mot porte par rapport à l'actualité, À considérer cette diversité, on mesurera combien Sade, du plus profond de sa révolte, disant ce qu'on ne veut pas voir, aura incité à montrer ce qu'on ne peut pas dire. Ainsi, tel un nouveau défi, c'est la question de l'irreprésentable qu'il nous pose, en liant à la liberté de tout dire, entre guillemets, comme à la liberté de chacun. Et dans un dialogue que j'avais préparé aussi pour une conférence au début de l'année, il ajoute, Sade, un dialogue qui s'appelle « Le dialogue entre un prêtre et un moribond », que je vous recommande, c'est publié chez D18, c'est un petit bouquin tout à fait épatant. Le moribond dit au prêtre « Ton Jésus ne vaut pas mieux que Mahomet, Mahomet pas mieux que Moïse, et tous les trois pas mieux que Confucius, qui pourtant dicta quelques bons principes pendant que les trois déraisonnaient. Mais en général, tous ces gens-là ne sont que des imposteurs, dont le philosophe s'est moqué, j'imagine que le philosophe c'est Voltaire, dont le philosophe s'est moqué, que la canaille a cru et que la justice aurait dû faire pendre. » Voilà. Donc ça, c'était Sade et la question, sa manière à lui de traiter la question de la représentation de l'irreprésentable. Mais je continue sur à partir de ça, sur ma petite méditation sur l'image. Je dirais, nos enfants sont abreuvés d'images, abreuvés de représentations de l'horreur, tous les jours, hein, au journal télévisé, dans les fictions, dans leurs jeux de vidéos, etc. Mais ce qui est le plus important, et que nos hommes pédagogues ou nos hommes politiques ne mettent jamais en avant, c'est qu'ils sont confrontés aux représentations de l'horreur avant même d'avoir à leur disposition un cadre de parole. C'est ça le point important. Parce que du point de vue freudien, c'est ça le traumatisme. Avant même d'avoir un cadre de mots qui leur permettent de ne pas être sidérés par ce qu'ils voient. Ils sont dans un état de sidération, et l'état de sidération appelle un état de désidération. Parce que cette horreur dont je parle, à laquelle ils sont soumis avant même d'avoir ce cadre de mots, c'est ce qu'ils mangent avec leurs yeux, tous les jours. À l'heure du dîner, par exemple, combien de familles, hein, dînent avec la télé allumée, actuellement, par exemple, et ce n'est pas un reproche que je ferai à la télé, loin de là, c'est plutôt dans le comportement des parents avec leurs petits-enfants qu'il y aurait à redire, hein, mais actuellement, si vous dînez avec la télé, comme c'est l'anniversaire de la libération des camps de concentration, hein, vous dînez, hein, avec des représentations des cadavres de la dernière guerre. Entre autres. Donc, c'est cette antériorité de l'image cruelle sur les mots qui pousse, qui m'amène à dire que il faut apprendre à décrypter l'antériorité elle-même, pas comme le disent les journalistes, apprendre à décrypter l'image. Bien sûr qu'il faut apprendre à décrypter une image, mais apprendre à décrypter l'antériorité, c'est-à-dire le fait que l'image était là avant même qu'il y ait les mots pour décrypter l'image. Et c'est donc cette antériorité, j'insiste sur ce point, qui a un effet traumatique, parce que ça va susciter soit l'adhésion perverse, par exemple, j'ai un petit patient israélien, petit patient, il a 16 ans, hein, israélien, pas soupçonnable une seconde d'avoir été élevé dans l'antisémitisme, hein, mais qui veut devenir designer et qui me parle comme ça, mais sans absolument aucun affect, hein, du stylisme des nazis, hein, de leur efficacité esthétique. Il en vient même à me dire, ils étaient vraiment très forts. Par exemple, le logo de la croix gammée, formidable. Il dit, non, mais c'est indépendant de ce qu'il faisait par ailleurs. le logo de la croix gammée. Non, mais vous imaginez, hein, il y a des moments où, quand on est psychanalyste, il faut être accroché à son fauteuil. Hein. Bon, mais ça, c'est la trace de ce dont je suis en train de parler. Donc, soit ça suscite l'adhésion perverse, comme dans ce cas-là, soit le déni qui va s'exprimer sous la forme d'un rejet violent. Et allez savoir jusqu'où va s'exercer cette violence, justement. Alors, je dirais, il faut commencer, et même continuer quand ça a déjà commencé, de transmettre par la parole orale ou écrite, qui est la seule possibilité de transmettre, en autorisant celui à qui on transmet, de penser et d'élaborer. D'ailleurs, je vous l'avais fait remarquer à une certaine époque, Hitler s'y était pas trompé. Parce qu'il annonçait déjà dans Mein Kampf qu'il se servirait des images, il l'annonçait, ce n'est pas un après-coup de ce qu'il a fait, il annonçait dans Mein Kampf qu'il se servirait des images pour contrôler la pensée. D'où le rôle capital qu'ont joué dans le nazisme, justement, les grandes parades, les processions, les drapeaux, etc., enfin, bon, tout le cinéma nazi, mais aussi stalinien, qui, en créant l'émotion, par la communion, rendait impossible l'exercice de quelconque sens critique. Ils étaient sidérés, littéralement sidérés. L'image, donc, soumet collectivement ceux qui la voient, là où la parole, à l'inverse de l'image, oblige chacun individuellement à élaborer ce qu'il entend. Donc je dirais, l'image, ça alimente la jouissance, ça ne transmet rien, ça n'exige rien de celui qui la regarde, là où la parole, au contraire, fraye un chemin vers l'adéquation des mots et de la réalité, ce qui est, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la définition même de la vérité. C'est pourquoi je pense qu'il faut informer très tôt les enfants. Ouais. Je disais que l'image alimente la jouissance et qu'elle ne transmet rien de celui qui la regarde, là où au contraire la parole fraye un chemin vers l'adéquation des mots et de la réalité. C'est pour ça que je pense qu'il faut informer très tôt les enfants qui de toute façon reçoivent sans discrimination toutes sortes d'images de façon prématurée. Encore une fois, le trauma, c'est la prématuration, c'est-à-dire le fait de percevoir l'insupportable avant d'être psychiquement préparé à le penser. Et last but not least, il faut se souvenir que du point de vue freudien, le traumatisme n'est pas une force refoulée, c'est une force refoulante. La fabrication du trauma, c'est la fabrication du refoulement. La question avec le trauma, c'est à quoi il va servir pour refouler. Pas pour refouler le trauma, mais pour refouler ce dont le trauma exige le refoulement. Alors, une fois qu'on a vu les choses comme ça, on peut se dire, mais alors justement, appliquons, si vous voulez, la doctrine aux événements. Et qu'est-ce qui est refoulé dans l'affaire que nous venons de vivre? Alors, il y a évidemment tout ce que je viens de dire sur l'image, hein, avec la complexité de l'affaire, tout ce qui concerne l'interdit de la représentation. Mais vous allez voir qu'il y a une façon de nouer l'affaire qui est, du point de vue que je viens de soutenir, absolument prodigieuse. Et je dois remercier grandement un écrivain que, par ailleurs, j'estime énormément, qui s'appelle Marc Weitzman, qui est, à mon sens, le seul à avoir soulevé le lièvre du refoulement dans l'affaire des caricatures. Dans un rebond qui a échappé à peu près tout le monde, de Libération, il a écrit un petit texte, que je ne vais pas vous lire en entier, mais je vais vous en lire un passage, qui a été titré par la rédaction ou par lui, je ne sais pas, « Le non-dit de la caricature ». Et voilà ce qu'il dit. Et vous allez voir, c'est prodigieusement intéressant, parce que tout ce dont on nous a abreuvé comme information et réflexion pendant ces semaines a laissé totalement ça de côté. C'est dur d'être aimé par des cons. Le documentaire de Daniel Lecomte sur Charlie Hebdo, qui ressort cette semaine et qu'il faut revoir à la lumière de ce qui vient de se produire, montre très bien comment, écoutez bien, comment c'est un meurtre et non l'envie de se faire plaisir, qui a poussé le magazine alors dirigé par Philippe Valle à publier en 2006 les caricatures de Mahomet conduisant au procès qui devait désigner son équipe comme une cible. Ce meurtre, et vous allez voir que ce n'est pas n'importe quoi au regard de tout ce que je viens de vous dire, ça, il n'y a pas pensé Marc, ce meurtre fut celui du polémiste et cinéaste Théo Van Gogh, égorgé par un islamiste. Eh oui, mais ça, on n'en parle pas. Non, il y a eu un article qui est apparu il y a des siècles. Non, mais même, je veux dire, on n'a pas fait le lien avec le fait que l'origine de l'affaire, c'est pas que des gens ont décidé de caricaturer pour se faire plaisir, comme dit Marc Weissmann, qu'ils auraient tout d'un coup décidé, on ne sait pas très bien pourquoi, de caricaturer pour provoquer. Hein ? Non, c'est que des islamistes ont tué pas n'importe qui. Ils ont tué quelqu'un qui s'appelle Théo, ce qui veut dire Dieu, hein, et Van Gogh, qui est un peintre. Hein, quelqu'un qui est justement dans la question de la représentation. L'association d'ailleurs Théo Van Gogh, bon, mis à part que, comme vous savez, je m'étais intéressé à Van Gogh, et que j'avais déjà remarqué que dans cette famille, tout le monde s'appelle ou Théo ou Vincent, donc on ne sait jamais qui est qui. Mais enfin, apprendre simplement au niveau du signifiant, hein, c'est le peintre de Dieu, Théo Van Gogh. Hein, c'est celui qui peint l'irreprésentable. Le peintre le plus cher du monde aujourd'hui, hein, c'est-à-dire celui que tout le monde s'arrache. Bon. Et donc le point de départ, c'est des islamistes qui tuent quelqu'un qui s'appelle Dieu. On est loin de Charlie Hebdo qui se fait plaisir hein, en provoquant ces pauvres islamistes, qui que quoi, etc. Alors voilà comment il continue, Marc. Théo Van Gogh venait de finir un court-métrage dénonçant, il en rajoute, hein, dénonçant, de quoi parlait le court-métrage en question, dénonçant la condition de la femme en islam, dénonçant la condition de la femme en islam, lorsqu'il a été atteint par 8 balles. Encore conscient, il a pu voir son agresseur l'achever, ça devrait vous rappeler des choses par rapport à ce qu'on vient de vivre, en le décapitant presque avant de lui planter son couteau dans la poitrine. Il était 9h du matin dans une rue du centre-ville d'Amsterdam, le 2 novembre 2004. Deux autres passants ont été blessés par les tirs. Aussitôt après, le journal néerlandais Jylland Posten lançait un concours de caricatures sur l'islam, et le film de Lecomte montre comment ces caricatures, une fois manipulées puis diffusées sur le net par des groupes islamistes, provoquèrent devant les ambassades occidentales installées dans le monde musulman des manifestations d'une violence telle que, à Bruxelles, une Union européenne timorée s'effraya, s'excusa au nom du continent tout entier et désavoua le journal. C'est alors et alors seulement parce que les structures politiques cédaient devant le meurtre, la peur et la manipulation, que plusieurs journaux occidentaux décidèrent de reproduire les dessins du Jylland Posten en signe de solidarité. Donc voilà. Ce qui a été refoulé, une fois de plus, c'est pas une première hein, en matière de théorie du refoulement. C'est un meurtre.
qui est le point de départ de l'affaire.
Et pas n'importe quel meurtre. Je dirais le meurtre de Dieu, justement. Le meurtre de Théo. Bon. Alors, j'aurais encore des millions de choses à dire. Juste, peut-être, si vous me laissez encore 10 minutes, hein, avant que tu prennes la parole. Je voudrais dire que, évidemment, bon, on peut faire toutes ces analyses et se dire, voilà, il y a des choses plus ou moins intelligentes à raconter, plus ou moins... mais enfin, bon, tout ça, ça nous mène à où ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ? Alors, d'abord, il faut se rappeler que, et ça, je l'ai su par un mail qui me venait de Tunisie, que les jeunes gens, comme la presse l'a rappelé, les jeunes gens qui ont procédé à ces assassinats, les jeunes criminels, là, sont des gens qui ont été, comment on dit, éduqués, si on peut dire, hein, dans des MECS. Les MECS, c'est des maisons d'enfants à caractère social, sous l'égide de la PJJ. C'est-à-dire des gens qui... je vais vous lire le mail tel que je l'ai reçu. « J'ai été profondément touché de découvrir que chacun des assassins acteurs de cette monstruosité sont aussi des enfants de la protection sociale de l'enfance. Trois d'entre eux, les deux frères assassins des membres de Charlie et du policier, et la jeune femme compagne et complice de l'assassin de la policière et des clients du supercacheur, ont été accueillis en MEX durant toute leur adolescence. » Et le quatrième a bénéficié de soutien d'Éduc PJJ. Un responsable de la MEX ayant accueilli les deux frères témoignait benoîtement, ils étaient des enfants sans problème. L'un d'eux a d'ailleurs réussi son CAP et un BEP alors qu'ils étaient à la MEX. Il s'agit des enfants, ils ont réussi donc le CAP et BEP. Il s'agit bien là d'une connerie d'Éduc, qui confond le signe et le sens, qui se satisfait d'objectifs d'insertion professionnelle, sans surtout se demander si ces mômes oseront, à partir de la rencontre engagée avec eux, continuer à chercher du sens à leur vie, plutôt que de réussir à trouver du sens à leur mort, en devenant assassins et martyrs, en étant abattus par les forces de l'ordre pour leur ignominie. Comment un échec peut-il répondre ? Au-delà de ses petites responsabilités professionnelles, de la relation engagée avec un gosse, afin que ce dernier ne devienne pas vulnérable aux endoctrinements qui s'inscriront au creux de ses fantasmes, au point d'en faire un assassin fanatique. Alors, c'est une grave question. Je me disais, mais par exemple, ces gamins dont on dit que la France a échoué à les intégrer. D'abord, ils ont subi la violence institutionnelle, hein, des MECS et de la PJJ. Et quand on y a mis ne serait-ce que le petit doigt, on sait que quand je dis violence institutionnelle, c'est pas de la gnognotte, hein, c'est juste une litote. Parce que la violence institutionnelle de ces endroits-là, c'est quelque chose de dramatique. Mais au-delà de ça, se pose la question de la transmission. Et je dis que si on n'a pas réussi à les intégrer, c'est en grande partie parce qu'on a refusé de les intégrer. Et on a refusé de les intégrer comment ? On a refusé de les intégrer en faisant semblant de leur parler la langue qu'ils connaissent, c'est-à-dire la culture qu'ils connaissent. Donc en leur parlant, par exemple, je prends un exemple parce qu'il m'a touché de très près, un de mes fils, ben vous le connaissez, c'est Mathias, me disait qu'entre la sixième et la terminale, en anglais par exemple, et Dieu sait qu'il n'était pas dans un collège de banlieue, hein, de la sixième à la troisième, en anglais, il a eu 4 fois à traduire « I have a dream » de Martin Luther King, que tous les textes qu'on lui a fait traduire portaient sur l'apartheid, la ségrégation, etc., etc., et que de la sixième à la troisième, on ne lui a pas mentionné une seule fois le nom de Milton et on ne lui a fait étudier aucune pièce de Shakespeare. Tout ça pour être dans le moule de soi-disant de ce qui intéresse les enfants. J'ai trouvé même la même chose dans un texte qui, par ailleurs, était remarquable, de Barbara Cassin, hein, qui dit exactement ça, il faut leur parler de ce qui les intéresse. Mais non, justement. L'éducation, ça consiste à les intéresser à ce qui ne les intéresse pas. Et par exemple, pourquoi ça serait important? Je relisais, il n'y a pas très longtemps, Tartuffe de Molière. Sans faire le joint, avec ce qu'ils vivent, justement, de ce dont parle notre collègue la Tunisien, sans faire le joint avec les rapports qu'ils ont avec ceux qui vont essayer de les entraîner par des doctrines plus ou moins fallacieuses dans les mirages du fanatisme. Si vous prenez des enfants de la sixième à la troisième ou à la seconde, et que vous leur faites faire chaque année Tartuffe plutôt que I Have a Dream, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, I Have a Dream, on peut le faire une fois, mais Tartuffe tous les ans, et si possible, par cœur, vous croyez qu'ils ne feront pas le lien? Vous l'avez relu, Tartuffe, récemment? Mais dans Tartuffe, il y a la dénonciation de toutes les stratégies employées par les Tartuffes, quelle que soit leur religion. C'est un texte que j'ai relu récemment, c'est un texte prodigieux. L'éducation, ça ne consiste pas à bourrer les crânes, ça consiste à créer les frayages qui vont leur permettre, eux, d'élaborer à partir de là. Ils vont se dire, mais cet intégriste imposteur, vous savez que Molière voulait appeler la pièce l'imposteur, il ne voulait pas l'appeler Tartuffe. C'est eux qui vont, à partir de là, découvrir quels sont les imposteurs auxquels ils ont affaire, eux. Et si ça ne leur plaît pas, Tartuffe, à 12 ans ou à 13 ans, eh bien tant pis, ça, on s'en fout, il faut y aller quand même. Il faut leur apprendre Tartuffe, il ne faut pas leur apprendre Martin Luther King. On peut leur parler de Martin Luther King, mais pas tous les ans, tous les ans, tous les ans. Ça finit par être un bourrage de crâne, et d'une certaine manière, ça les désocialise, ça les exclut, alors qu'on prétend les inclure. Donc ça, c'est une première chose, et je terminerai là-dessus sur la question de la transmission. Il y a un problème, comme le disent les intellectuels d'origine musulmane aujourd'hui, il y a un problème de transmission dans l'islam. L'islam lui-même pose des questions. Et je ne sais pas si vous avez vu passer la pétition engagée par Fethi Ben Slama, le directeur de l'UFR de psychologie à Paris 7, qui a écrit le livre « L'islam au risque de la psychanalyse ». Il dit des choses dans cette tribune. Cette guerre nous interpelle tous, nous laïcs issus du monde islamique. Il est de notre responsabilité d'agir et de nous opposer à tout ce qui l'alimente. Des réformes sont indispensables dans le monde musulman pour contrer cette guerre, etc., etc. La réponse consiste à reconnaître et affirmer l'historicité et l'inapplicabilité d'un certain nombre de textes que contient la tradition musulmane, et à en tirer les conclusions. Tous les acteurs concernés, à commencer par les religieux et les autorités de chaque pays, doivent le déclarer comme inadapté, dépassé et inapplicable. Je passe. L'activation et l'instrumentalisation de ce corpus, quelle qu'en soit la raison, doivent être dénoncées d'une manière explicite par les autorités, les religieux, les sociétés civiles, ainsi que dans les manuels scolaires et sur les médias. Et vous trouverez le texte si vous allez sur Internet, et vous serez, je pense, sensible comme moi au fait que parmi les premiers signataires, il y a une dizaine de psychanalystes d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, etc. Voilà, sur ces points-là, ce que j'avais à dire. Alors je reviens à mon petit garçon qui m'a beaucoup fait réfléchir, parce que je me dis, il y a dans tout ça, il y a une question qui est la question du rapport à la loi. Qu'en est-il de la transmission d'un rapport à la loi? Parce que le rapport à l'image, c'est le rapport à la loi. La loi étant non pas ce que diffuse l'image, mais ce que, à son insu, elle transmet. Donc je vous ai décrit ce petit garçon comme agité dans tous les sens, etc. La semaine dernière, sa maman arrive, sa maman qui est journaliste, je vous ai dit, d'un magazine féminin, très à la page, et dont le père, d'ailleurs, le père de la maman, est un grand traducteur, grand écrivain. Elle arrive et elle dit, est-ce que je peux vous parler? Je dis, si votre fils est d'accord. Et donc on se retrouve tous les trois dans le bureau. Il s'allonge sur le divan, ce qui, vu le portrait que je viens de vous en dresser, est absolument étonnant. Il s'allonge sur le divan, il met son pouce dans la bouche, je vous rappelle qu'il a environ 9 ans, et pendant tout le temps où sa mère va me parler, il ne bouge pas. Depuis que je le reçois, je n'avais jamais vu ça. La mère avait à me raconter juste qu'il lisait On est dans la période, là. Il lisait une bande dessinée à l'heure où il fallait partir à l'école. Elle lui dit, alors je vais dire un autre prénom, Alain, maintenant, tu arrêtes, tu déposes ta bande dessinée et on part à l'école, sinon on va être en retard. Et elle dit, il fait comme s'il ne m'entendait pas. C'est elle qui n'entend pas le message qu'il est en train de lui envoyer. Mais il fait comme s'il ne m'entendait pas. Donc je lui répète une deuxième fois, puis une troisième fois, et vous voyez, il ne m'obéit pas, me dit-elle. Je ne moufte pas. Elle dit, je lui arrache, je m'en suis beaucoup voulu, mais je lui arrache la bande dessinée. À ce moment-là, il entre dans une grande fureur, il veut me rentrer dedans, il me tape, et il se met à pousser des cris. Et puis après, il se sent coupable, donc, me dit-elle, il est tout contrit, et il vient s'excuser. Bon, je dis, ben, vous pouvez aller dans la salle d'attente maintenant. Dès qu'elle a tourné les talons, il se redresse, et je lui dis, alors, t'en penses quoi de ce qu'a dit ta mère ? Elle ment. Je lui dis, elle en a peut-être ajouté un peu, quoi. Je lui dis, c'est quoi le mensonge ? Je ne me suis pas excusé. Donc là, déjà, il me surprend. Je ne me suis pas excusé, c'est pas vrai. Bon. Je lui dis, mais t'as retenu quoi de ce qu'elle dit ? Il ne me répond pas. Je lui dis, bah, écoute, moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu voulais lui rentrer dedans. Alors il me fait un petit signe des yeux, genre, oui, t'as bien compris, c'est ça qui est important. Et je lui dis, peut-être que tu as envie de revenir dans son ventre. Il ne me répond pas. Donc je me dis, ça veut dire que pour l'instant, il me laisse continuer mes conneries. T'as peut-être envie de retourner dans son ventre, mais alors je vais te dire un truc, tu ne peux pas, parce que ça serait revenir en arrière, et que le sens de la vie, c'est d'aller vers l'avant, c'est pas d'aller vers l'arrière. Si tu vas vers l'arrière, tu vas vers la mort, or tu es là pour aller vers la vie. Et c'est la raison, et j'ajoute, et c'est la raison pour laquelle aller revenir dans le ventre de sa mère, c'est interdit. Il me regarde, et vous devinerez jamais, parce que moi je ne l'avais pas deviné, ce qu'il me répond. Il me dit, est-ce que je peux aller le dire à maman ? Et je me suis dit, mais voilà. Il pose la question, à partir de l'histoire de la bande dessinée, il pose la question de la loi. C'est, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la loi suffisamment pour que d'une façon ou d'une autre, elle soit énoncée ? Parce que quand la loi n'est pas énoncée, eh ben c'est n'importe quoi. Que ça concerne les terroristes dans le rapport au dessin, hein, ou que ça le concerne lui dans son agitation qui fait qu'il est soumis à toutes sortes de médicaments, etc., etc., qu'il a vu quantité de pédiatres ou de psychiatres. Bon, je ne vous en dis pas plus sur le génie de ce petit garçon, et sur l'efficacité d'ailleurs de la cure, parce que sans qu'il s'en aperçoive, et sans même que je m'en aperçoive, dans le cours de la séance, il est resté très très calme. Donc on a parlé de ça, je lui ai dit qu'il dirait ça à sa maman plus tard, et il m'a dit, bon, alors maintenant on va parler de foot. Et il m'a raconté comment, avec son équipe, il avait gagné contre le PSG Junior le dernier match, et il m'a décrit les passes, les machins, etc. Bon, bref, il était redevenu un petit garçon dans la complétude de son âge, quoi. Voilà. Voilà, j'aurais des milliards d'autres choses à vous dire, mais voilà ce que je voulais au moins préciser ce matin. Une file à toi.
J'avais préparé quelque chose. C'est difficile d'intervenir comme ça après toi. Quand même, je m'étais dit, même en téléphonant à François.
François, c'est Françoise Petitot qui est... derrière vous, ouais. En rouge.
Je pensais que les psychanalystes manquaient d'analyse politique de ce qui se passait. Et jusqu'à ce que tu parles de Théo Van Gogh, je me disais, oui, j'ai raison, c'est brillant ce qu'il apporte, mais il lui manque une analyse politique. Pardon ? Je parle. Donc, c'est autour de ça que je voulais parler. Alors, pour trois choses. La première, parce que j'ai entendu durant ces 15 derniers jours, de la part des enseignants, plus particulièrement, un grand désarroi qui, à mon sens, tient à la dissolution de la fonction politique.
Pas plus fort, mais tout le monde n'entend pas.
Et qui mérite certainement d'être entendu. Et je ne sais pas comment, mais il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à des dispositifs. D'autant plus qu'ils ne sont pas les seuls des intervenants dans le domaine social qui souffrent. Peut-être qu'on pourrait avoir un autre témoignage aujourd'hui. J'aurais une question quand même à te poser encore, que tu as partiellement commencé à y répondre. Cette question est abrupte. Je parodie un peu Badiou, mais il nous faudrait réfléchir à de quoi l'islam est le nom. Je ne dis pas qu'est-ce que c'est que l'islam, je ne dis pas qu'est-ce que l'islam enseigne, mais de quoi l'islam est le nom. Il l'a trouvé, il le dit, il le met dans un livre ou bec, mais je vous rappelle que islam, ça veut dire soumis.
Soumis à Dieu.
Soumis à Dieu. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que de se dire tous les jours, d'être soumis et de se prosterner comme ça? Qu'est-ce que ça engendre aussi comme refoulement? Ce signifiant-là. Et le corollaire, c'est ça qui me paraît important, et c'est sur quoi porte ma question qui t'est adressée directement, c'est qu'est-ce que tu penses de ce qualificatif qui se répand comme une traînée sans que l'on sache ce qu'il veut dire exactement, c'est-à-dire islamophobie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'islamophobie? Est-ce que ce n'est pas encore pour moi, et c'est en cela que c'est politique, est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir refouler tout discours sur l'islam? Est-ce que ce n'est pas une manière de résister et qui est instituée justement par une idéologie qui, elle, se revendique de l'islam, et il faut le dire très clairement, qui est totalitaire, mais pour le monde. Quand on est allé tuer 135 petits Pakistanais au Pakistan, qu'est-ce qu'on a dit? Rien du tout. Donc là, on est en train d'assister à une forme, je le pense, et je te l'ai dit en 94, puisque je t'avais demandé si on ne pourrait pas faire un colloque là-dessus, on est en train d'assister à une montée d'une pensée totalitaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, dernière question, tu l'as un peu abordée, c'est aussi, alors ça concerne les psychanalystes et nos associations. C'est une question concernant l'acte. Je crois que les psychanalystes, à lire tous les emails que nous recevons, dont certains sont marrants, puisqu'il y en a un qui dit que si Freud était né avant le Christ, tout ça ne serait pas arrivé. Donc on peut se marrer là. De la même manière, dans ce même article, il commande cette phrase de Malraux, le 21e siècle sera ou ne sera pas, on ne sait même pas si Malraux l'a dit, mais lui conclut, l'auteur de cet article, que si Malraux avait trouvé un divan, il n'aurait pas dit cette phrase. Donc ça prouve que les psychanalystes aussi devraient réfléchir collectivement un peu différemment. Alors ma question sur l'acte, elle est celle-ci. C'est peut-être une manière pour moi un peu gâteuse de vous parler, puisque je vous rappelle que On avait fait avec quelques-uns, dont certains qui sont ici présents, qui une association qui s'appelait Psychanalyse dans la Cité, qui a voulu témoigner dans la Cité, à Montpellier, et on avait fait des consultations quasi gratuites pour des SDF. Est-ce que le moment n'est pas venu de poser un acte de la part de certains psychanalystes, peut-être pas de s'adresser directement à une population, mais de se mettre à l'écoute de ces enseignants, de ces intervenants? Je sais que certains le font dans des régulations, ça je ne conteste pas du tout, mais peut-être que collectivement, en tant qu'analyste, poser un acte de cette valeur-là aurait pour moi une autre valeur que de continuer à s'envoyer des mails. Voilà. Pardon ?
Oui, c'est tout à fait d'accord, c'est la question qu'on s'est posée avec les collègues.
Oui, voilà, Bon, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens... Et on ne peut pas le dispositif, même pour ceux qui souffrent, le dispositif fauteuil divan est insuffisant. Il faut qu'ils puissent parler, et parler de leur pratique d'une certaine manière, en groupe, et c'est à nous, psychanalystes, ici, d'essayer au moins de se réunir pour réfléchir si c'est possible ou non. J'ai vu... Jacques, je vous ai vu sourire. Hein, donc, vous avez dû vous dire que je me répète, puisque vous avez fait partir de...
avec l'expérience psychanalyste dans la Cité.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a fait arrêter?
Un mouvement d'humeur. Non. Si.
Le fait que ce n'était pas financé, l'expérience...
Non. C'est parce qu'aussi, il y a eu quelqu'un... qui a dit, vous ne vous rendez pas compte, c'est votre transfert à Moufid qui fait qu'on continue à se réunir. Et j'ai claqué la porte. Bon, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Hein? Bon, voilà, ma question, elle est celle-ci, peut-être en dehors du... C'est l'occasion, parce que c'est un lieu où des gens, du coup, freudien, mais pas seulement... se retrouvent, je parle de l'insu, c'est peut-être le moment de réfléchir un peu s'il n'y a pas des initiatives de nouveau, mais de la part d'une autre génération, à prendre pour essayer de créer quelque chose comme ça. Et d'essayer de réfléchir à ce que j'ai dit, c'est-à-dire de quoi l'islam est le nom et qu'est-ce que c'est que l'islamophobie. Ça, je n'arrive pas à me résoudre à entendre chaque fois cet islamophobe. Je finis par me demander moi-même, puisque si je n'étais pas islamophobe, à la lumière de ce que je pense de certaines choses de l'islam. Voilà.
Je ne dois pas être le seul à pouvoir répondre à ces questions. Hein.
Déjà.
Oui.
Je ne sais pas si c'est une réponse, mais puisque tu parodies Badiou, on pourrait dire que l'islamophobie, c'est une manière d'être phobique à la soumission à Dieu. L'islam, ça veut dire soumission à Dieu. C'est une association que je fais.
C'est une association qui, à mon avis, qui a beaucoup de sens. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, si vous ne l'avez pas vu, allez le chercher sur Internet. L'oraison funèbre que la rabbine Delphine Wheeler a fait à l'enterrement de Elsa Kayat, hein, où elle explique que justement, ce qui caractérise le judaïsme, c'est la non-soumission à Dieu. Et c'est le fait de dire à Dieu de s'occuper de ce qu'il regarde. C'est-à-dire que les affaires des hommes, ce sont les affaires des hommes, et que Dieu n'a pas à mettre, même s'il est invoqué par des érudits, des rabbins, des sages, il n'a pas à se mêler. Oui, vas-y. Juste ce passage sur le Talmud.
Oui, bien sûr. Alors, imaginez l'ambiance d'une conférence de rédaction à Charlie Hebdo, transposé au monde de la yeshiva. Rabbi Eliezer dit alors, « J'ai raison, J'ai forcément raison pour le prouver, dit-il, que cet arbre soit immédiatement arraché. Dans la seconde, l'arbre est déraciné et plante 100 mètres plus loin. Réaction des autres rabbins. Ils haussent les épaules et alors, ça ne prouve rien. Alors Rabbi Eliezer poursuit sa démonstration. Si j'ai raison, que les murs de la maison d'études s'effondrent sur nous. Immédiatement, les paroles de la yeshiva commencent à s'affaisser. Les autres sages se tournent vers les murs et leur disent « De quoi je me mêle? Ceci est un débat entre les sages. Ne bougez pas et restez en place. » Les murs s'immobilisent. À bout d'argument, Rabbi Eliezer en appelle à Dieu lui-même et dit « Si j'ai raison, une voix céleste le confirme. » Immédiatement, une voix céleste annonce « Rabbi Eliezer a raison. » Silence à la maison d'études. Alors se lève un autre homme, un autre rabbi, Rabbi Yeshua. Il dit à Dieu, cette discussion ne te regarde pas. Tu nous as confié une loi, une responsabilité. Maintenant, elle est entre nos mains. Tiens-toi loin de ces débats. Voilà. Et alors, à un moment donné, je crois que Dieu, le Talmud dit, en entendant cela, il affirme le Talmud, Dieu se met à rire et dit avec tendresse, mes enfants m'ont vaincu.
Voilà, c'est une partie de la réponse. Hein. Quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait le bouquin sur le 11 septembre, j'avais à cette occasion-là lu le Coran en détail. Et donc j'avais remarqué, entre autres choses...
Et c'était signifiant, un jardin des sens. Ouais.
J'avais remarqué, entre autres choses, mais je vous en avais fait part à l'époque, ça commence à dater, ça fait 13 ans quand même, 14, que dans le Coran, Dieu est appelé à plusieurs reprises le Dieu créateur et recréateur. Et j'en avais déduit que ce Dieu auquel le musulman se soumet est un Dieu qui a le pouvoir de créer, mais qui n'a pas renoncé au pouvoir de détruire. Car pour pouvoir recréer, il faut d'abord détruire. Or, le Dieu de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, ce Dieu-là est un Dieu qui a renoncé à détruire après le déluge. La première chose que Dieu dit après le déluge, c'est « Je ne détruirai plus la création ». C'est ce qui fait que, d'ailleurs, dans les 10 commandements, le premier, enfin, qu'on appelle en hébreu les 10 paroles, le premier commandement, donc la première parole, ne met pas en avant le Dieu créateur. Elle met en avant le Dieu libérateur. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte la maison d'esclavage. » Après tout, religion pour religion, on aurait pu s'attendre à trouver « Je suis l'Éternel, ton Dieu, créateur du ciel et de la terre. » Or, ce n'est pas ça qui est dit. C'est le Dieu libérateur. Et les rabbis s'interrogent. Pourquoi il se présente comme ça? Pourquoi il ne dit pas qu'il est le Dieu créateur? Et une des réponses, c'est il ne le dit pas parce que de la création, il n'y a pas de témoin. Alors que de la libération, il y a des témoins. Chacun d'entre nous est témoin de sa propre libération, comme au moment de la sortie d'Égypte, les Hébreux qui sortaient d'Égypte ont été témoins hein, de la force divine, puisqu'ils ont été libérés. Et donc, tout discours sur la création est un discours, en quelque sorte, auquel on adhère ou auquel on n'adhère pas, mais enfin, qu'on peut qualifier tout aussi bien de mensonger hein, ou de délirant, dans la mesure où il n'y a personne pour en répondre. Alors, dans le Coran, Dieu est terrifiant. C'est ce que j'en avais déduit après en avoir lu quand même des tranches entières quelquefois à me bousiller la cervelle, tellement que quelquefois c'est incompréhensible. J'en avais déduit qu'il est terrifiant, ce Dieu-là, ce Dieu qui a ce pouvoir-là. D'une part, donc ça c'est quand même une chose relativement importante. Et puis, Il y a une deuxième occurrence, en tout cas à l'époque, et c'est pour répondre à Moufid, de quoi l'islam est-il le nom ? Bon, alors, d'abord, soumission, effectivement, c'est soumission à Dieu, hein, c'est pas soumission à n'importe quel ordre. Mais je te retournerai la question, parce que, à mon avis, elle a aussi du sens à être retournée. De quoi Badiou est-il le nom ? Badiou, c'est le nom d'un de ces intellectuels qui font florès, notamment aux États-Unis, mais qui ont soutenu les pires crimes contre l'humanité du siècle dernier et qui continuent à les soutenir.
Mais ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ça. Parce que j'ai hésité entre totalitarisme et nazisme.
Allez-y.
Oui, j'aimerais apporter quelque chose qui m'a beaucoup travaillé dans la suite de l'attentat. C'est en lien avec un accompagnement donc, à l'hôpital en tant qu'aumônier protestant que j'ai fait, d'un jeune musulman en psychiatrie fermée qui a demandé au moment où il était autorisé à entrer en communication de venir me voir. Donc, je l'ai reçu pendant un bon moment. Et la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers les collègues musulmans ? Il m'a répondu, je sais exactement ce qu'ils me disent, c'est un discours qui me tue. J'ai besoin de me construire, si je veux continuer à vivre, j'ai besoin d'autre chose. Je lui dis, ok, on peut échanger, moi je suis chrétienne, vous êtes musulman. On a commencé, c'est un jeune qui a une vingtaine d'années. Le fait qu'il ait soit en psychiatrie, il est parmi de la prison, pour l'instant, pour les affaires de drogue. Et il allait mieux. On a travaillé la question de la responsabilité, du jugement, la question du péché et la question de Dieu. Après, il allait mieux, il a été donc transféré dans une clinique privée et j'ai passé le relais à ma collègue. Et le relais a pris, ma collègue a continué. La semaine suivante,
collègue chrétienne.
Collègue donc aumônier protestant du secteur privé, dans une clinique psychiatrique de Montpellier. La semaine qui suit les attentats, elle va le voir. Donc, il est très violent, il ne veut plus la voir, il ne veut plus voir de femmes, de chrétiennes. Donc il a fait, selon les soignants, un délire. Il s'est islamisé de nouveau, rupture totale. Voilà. Il y a quelque chose là où on s'est dit, voilà, moi et ma collègue, on va aller voir les soignants pour essayer de travailler avec eux, qu'est-ce qui a pu se passer. Et pour moi, dans ce transfert fort, aussi avec la prise de relais réussie, la question est, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jeune qui commençait à construire, à questionner la question du sens, à ce moment de l'attentat, soit dans cette violence et balaye toute cette construction et dit voilà, plus de femmes, plus de chrétiennes, je suis maintenant musulmane. Et de quelle manière ? Alors, moi, j'ai pas fini d'être très, très secouée par ça. Aussi par cette violence de la rupture du transfert.
Et quelle est votre hypothèse ? Parce que là, vous faites un constat, mais...
Mon hypothèse, c'est que le fait qu'il soit musulman par son père et que le rapport à la loi avec laquelle il était en conflit, puisqu'il était... Voilà, trafic de drogue, que les éléments de construction par rapport à la loi, par rapport à la responsabilité, ça n'a pas pris. et qu'il y a quelque chose dans cet attentat et qui a fait qu'il se reconnaît
du côté du père.
Voilà, je veux dire, soumis de nouveau à quelque chose où il a essayé d'en sortir. Voilà, c'est un balbutiement d'une hypothèse.
Vous dites qu'il est musulman par son père.
Oui.
Et sa mère.
Sa mère est, donc, vit en France et.
Elle est quoi ?
Elle est donc d'origine catholique mais non pratiquante.
Ah, donc il est lui.
Oui. Mais il est musulman, donc c'est. Voilà.
Oui.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il bascule du côté musulman.
Oui, mais pas de n'importe quelle manière. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme ma question, c'est qu'est-ce qui les attentats dans cette violence extrême, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là il bascule? C'est un élément de sens.
On pourrait se poser la question de qu'est-ce qui le fait basculer. Est-ce que ce sont les attentats ou les réponses aux attentats?
J'en sais rien. Oui.
Non, mais la les réponses à la question que vous posez ne pourront venir que de lui. Hein, c'est lui qui va vous dire quelles sont les identifications qui ont prévalu à ce moment-là.
Oui, et la question qui est la mienne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut poser comme acte, je veux dire, chacun à sa place. Donc, du coup, je me pose la question, mais qu'est-ce qui, dans ma manière, de le recevoir, d'interroger avec lui la question du sens, de la culpabilité, de la responsabilité, du jugement. Voilà, qu'est-ce qui a...
Qu'est-ce qui vous vous souvenez de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, de ce qu'il vous a dit, des raisons pour lesquelles il s'adressait à vous et pas au sien?
Oui.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Je sais ce qu'ils vont me dire.
Et?
Et puis ça ne va pas m'aider à me construire.
Ils ont un discours de mort.
Oui, ils ont un discours de mort.
Ils ont un discours de mort. Voilà, bah, il va de ce côté-là. Les attentats le renvoient de ce côté-là, du côté du discours de mort. C'est d'une certaine façon, à l'échelle individuelle, ce que je citais tout à l'heure de malaise dans la civilisation, c'est-à-dire que dans le conflit entre Héros et Thanatos, on ne sait jamais de quel côté ça va pencher. Et que les attentats, pour des raisons que vous aurez à écouter dans ce qu'il va dire si un jour vous pouvez le réentendre, il n'y a que lui qui pourrait dire pourquoi ça a basculé de ce côté-là et pas de l'autre. Mais en tout cas, c'est comme si à ce moment-là, il choisissait effectivement le discours de mort.
Il choisit une soumission sur deux ou à la place de l'autre, c'est-à-dire une soumission à Dieu, à l'islam, plutôt qu'une soumission à la représentation.
Non, mais moi, je crois, Eric, qu'il faut s'en tenir à ce que les gens disent.
Oui, tout à fait.
Hein, et il a dit... Au départ, en parlant à l'aumônière chrétienne, je vous parle à vous pour échapper à un discours de mort. Ben voilà, c'est à prendre au pied de la lettre. Donc à partir du moment où il cesse de pouvoir s'adresser à elle et qu'il la rejette, hein, il faut se souvenir de ce qu'il dit plutôt que de plaquer nos convictions et se dire, ben, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, ça ne répond pas à la question, ça la déplace juste, mais à partir de ce qu'il dit, qu'est-ce qui fait qu'il revient au discours de mort? C'est-à-dire, au fond, d'une certaine manière, c'est un suicide.
On a beaucoup, qui fait écho à ce qu'on a beaucoup dit sur ces meurtriers, c'est-à-dire qu'ils ont choisi quelque chose du suicide. Et
c'est ce que je vous lisais tout à l'heure de l'intervention de mon collègue tunisien.
Oui.
Hein, qui dit il n'existe que dans la valorisation de la mort.
Qui
est une façon d'exister.
Mais d'où, il me semble, l'extrême difficulté, enfin je sais pas, je présume que ça vous est arrivé ici aussi, cette semaine, qu'on peut entendre chez les patients qui sont arabes, c'est-à-dire l'énorme difficulté dans laquelle, les énormes contradictions dans lesquelles ils sont. Et moi je me dis là actuellement. S'il y a quand même des choses à faire, c'est aussi dans cette direction-là. Parce que je pense qu'actuellement, de culture arabe ou lié à l'immigration d'une façon ou d'une autre, ça doit mettre les gens sacrément en difficulté. Et d'ailleurs, ils le disent. Et moi, j'ai trouvé que c'était les premières fois où j'entends une parole alors politique sur mon divan, alors que c'est la première fois que j'entends ça. Que les, voilà, et quand tu dis, c'est Moufid peut-être qui disait ça, que c'est important que les psychanalystes aient aussi une analyse politique, moi, c'est la première fois cette semaine où je me dis, ben oui, il faut aussi qu'on puisse penser à ça, parce que c'est justement, comment entendre précisément toutes les questions qui sont soulevées par ces personnes.
En tout cas, je peux vous dire de ce qu'a été de fait ma pratique ces 15 derniers jours, c'est que sur toutes ces questions-là, quand elles ont été soulevées, et elles ont été soulevées par tous les patients, et donc même, comme vous venez de l'entendre, même par les enfants, sur toutes ces questions-là, j'ai répondu. C'est-à-dire que je n'ai pas, j'ai pris soin de ne pas laisser penser que je pensais que ça pouvait être des fantasmes. Et qu'il n'y avait pas de réponse possible. Donc sur tous ces points-là, j'ai dit ce que je pensais.
C'est très important.
Rien de plus que ce que je pensais. Et en essayant que ça ne soit pas un séminaire, chaque fois, en deux ou trois phrases, mais répondre du réel, en disant, bah oui, il y a du réel. Et pas en disant aux gens de s'asseoir, en les laissant allonger. C'est-à-dire que du réel vienne aussi de l'autre, que quelque chose de l'autre soit entendu comme tel. Parce que sinon... c'est une autre façon de répondre à ta question, Moufid. Sinon, ça laisserait entendre que le psychanalyste pourrait être celui qui considérerait que les événements de la réalité, aussi dramatiques que le sont ceux-là, pourraient n'être que des fantasmes. Et qu'il faudrait laisser les gens se démerder avec ça. Et que nous, on ne serait pas concernés, par exemple. Par exemple, une patiente, une des toutes premières patientes, excuse-moi, Mathieu, une des toutes premières patientes qui a pris la parole là-dessus... le jour même où ça a eu lieu, je ne savais même pas que ça avait eu lieu. Donc je venais de l'apprendre, elle arrive tout de suite après, et elle dit, je suis bouleversée, je ne sais plus quel adjectif elle emploie, et elle me dit ça comme ça, c'est quelqu'un qui est en face à face, et je lui dis, et vous pensez que moi pas ? Et elle m'a dit, 15 jours après, à quel point ça avait été important. Que je ne sois pas dans une extériorité où le fait d'avoir été psychanalysé ou d'être psychanalyste me laisserait indemne de tout affect à l'égard de ce qui est en train de se passer. Surtout qu'en plus, je travaille dans le 11e, c'est-à-dire dans l'arrondissement même où a eu lieu l'histoire de Charlie. Donc ça s'est passé à 250 mètres de chez moi, enfin de mon bureau.